Bienvenue. Aujourd'hui, on va se poser une question qui touche de plus en plus de jardins en France. Ce petit poulailler familial qu'on voit partout, est-ce que c'est une petite forteresse de résilience ou, au contraire, une future victime du changement climatique? Pour creuser le sujet, on s'appuie sur un article vraiment très complet du site Poulailler Bio. L'objectif, c'est de comprendre l'impact bien réel de la hausse des températures et de voir quelles sont les solutions.
C'est une excellente question, hein. Vraiment. Parce que ça sort le changement climatique des grandes discussions un peu abstraites pour l'amener juste là, au fond du jardin. On ne parle plus de la fonte des glaces, mais de la santé de nos poules, de la qualité des œufs qu'on mange. Ça touche au bien-être animal, bien sûr, mais aussi à notre propre autonomie alimentaire, même à une toute petite échelle.
Alors allons-y. Le premier choc, c'est la chaleur, évidemment. Les chiffres que donne la source sont assez directs. On nous parle de plus 2 degrés en France d'ici 2030.
Et presque 3 degrés d'ici 2050.
C'est énorme, avec des pointes bien pires dans le sud-est en été. On s'en doute que c'est un problème pour les poules, mais à quel point ?
C'est un problème majeur, vraiment. Parce que la poule, et c'est ça qui est surprenant, est un animal en fait très mal équipé pour lutter contre la chaleur.
Ah bon ?
Oui. Et la raison, elle est très bien expliquée dans la source. C'est complètement contre-intuitif pour nous, les mammifères.
C'est-à-dire ?
Une poule ne transpire pas.
Attendez, pas du tout ?
Pas une goutte. Jamais.
Ça change absolument tout. Pour nous, c'est notre climatisation intégrée. Alors, elles font comment ?
Leur seul et l'unique outil, c'est le halètement. Un peu comme un chien. Elles respirent très vite, la bouche ouverte, pour tenter d'évacuer la chaleur par les voies respiratoires.
D'accord.
Mais ce système, il a une grosse limite. Dès que l'air ambiant est non seulement chaud, mais aussi humide, eh bien le mécanisme devient presque inefficace.
Et là, l'animal surchauffe.
Exactement. Il surchauffe de l'intérieur, sans plus aucun moyen de se réguler.
Et les conséquences peuvent être dramatiques. Je repense à cet exemple dans l'article qui m'a marqué, juin 2019.
Oui, les 46 degrés dans l'Hérault.
46 degrés. On imagine la catastrophe dans les élevages, mais aussi la panique pour le particulier qui retrouve ses animaux en détresse complète.
Tout à fait. Et ce qui rend la situation encore plus complexe, c'est un paradoxe très moderne. Les auteurs mettent vraiment le doigt sur un point essentiel.
Lequel ?
Les races de poules les plus populaires aujourd'hui, c'est ces championnes de la ponte sélectionnées pour être hyper productives.
Oui.
Sont souvent les plus fragiles face à la chaleur. Elles sont devenues des athlètes de haut niveau, mais pas du tout des marathoniennes du désert.
Ça, c'est un point absolument crucial. Est-ce que ça veut dire que l'éleveur amateur, en cherchant la meilleure pondeuse sur le marché, sélectionne sans le savoir l'animal le moins adapté à ce qui nous attend ?
C'est tout le dilemme. C'est exactement ça. On a poussé la génétique pour le rendement, pour le nombre d'œufs, et on a perdu en rusticité, en capacité d'adaptation. Une vieille race locale, qui va peut-être pondre un peu moins, supportera bien mieux une canicule qu'une machine à œufs ultra perfectionnée.
On se retrouve donc face à un choix.
Ouais. Est-ce qu'on veut un maximum d'œufs maintenant ou est-ce qu'on veut des poules qui seront encore en bonne santé demain ? Forcément, la réponse n'est pas la même si on habite à Lille ou à Carpentras.
D'accord. Donc la chaleur, c'est l'ennemi direct, presque mécanique. Mais j'imagine que les problèmes ne s'arrêtent pas là. La source parle aussi beaucoup du dérèglement des pluies.
Oui, et là, on entre dans une gestion des extrêmes. Il faut se préparer à un double scénario.
Complètement opposé, j'imagine.
Exactement. Des sécheresses de plus en plus longues, de plus en plus intenses. Et à l'inverse, des orages d'une violence folle, avec de vrais risques d'inondation.
Pour la sécheresse, on voit bien le problème. Le manque d'eau pour boire, bien sûr. Mais y a-t-il d'autres impacts ?
Oh que oui ! D'abord, l'alimentation. Moins de pluie, c'est moins de céréales, donc des aliments plus chers, plus rares. Et puis, il y a l'environnement direct de la poule qui est complètement bouleversé.
C'est-à-dire ?
L'article utilise une image que je trouve très forte. Le parcours enherbé, cet idéal de la poule heureuse, se transforme en paillasson sec.
Ah oui, je vois très bien.
Fini l'herbe tendre, les vers de terre, les insectes à picorer. C'est une perte pour la nutrition, mais aussi pour le bien-être de l'animal, qui adore passer ses journées à gratter un sol vivant.
D'accord, la sécheresse, c'est un problème évident. Mais l'article mentionne aussi l'excès d'eau. On se dit que l'eau, c'est la vie, mais comment des pluies violentes peuvent virer au cauchemar pour un poulailler ?
C'est un cauchemar sanitaire, en fait. Un sol qui est détrempé, boueux en permanence, c'est la porte ouverte à toutes les maladies de pattes et aux parasites qui adorent l'humidité. Et si en plus l'eau s'infiltre dans le poulailler lui-même...
La litière
devient un véritable boulon de culture pour les bactéries, les moisissures, et ça peut causer des problèmes respiratoires très graves.
Donc l'éleveur est pris en étau.
Complètement. Il doit stocker l'eau pour l'été et en même temps protéger son installation des déluges de l'automne, c'est un vrai casse-tête.
Et en parlant de cauchemar, il y a une autre menace qui est mise en avant, celle des parasites, avec en tête d'affiche le fameux pou rouge.
Ah, le pou rouge! Rien que le nom fait frissonner tous ceux qui ont déjà eu des poules. C'est un acarien minuscule, il se cache le jour et la nuit il sort pour sucer le sang des poules.
Et le rapport avec le climat?
Son cycle de reproduction est directement lié à la température. Plus il fait chaud, et plus il fait chaud longtemps, plus il se reproduit vite.
Le climat lui donne un sacré coup de pouce, en fait.
Il lui déroule le tapis rouge. Et c'est là qu'on voit un effet de ciseau qui est redoutable. D'un côté, on a le prédateur, le pou rouge, qui est boosté par la chaleur.
Et de l'autre ?
De l'autre, on a la proie, la poule, qui, elle, est affaiblie par le stress thermique. Son système immunitaire tourne au ralenti.
On a donc un agresseur plus fort.
Face à une victime plus faible. C'est terrible.
C'est vraiment une double peine.
Absolument.
Tout ce stress, cette chaleur, ces parasites, j'imagine que ça se voit sur la santé de la poule, mais aussi dans le panier à œufs le matin.
Ah oui.
Est-ce qu'on a moins d'œufs ou des œufs différents ?
Les deux, en fait. C'est une conséquence très directe. Une poule en stress thermique, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle réduit sa consommation de nourriture.
Logique.
Moins d'énergie qui rentre, c'est moins d'énergie disponible pour la ponte. Le corps passe en mode survie, il ne passe pas en mode production. Donc le taux de ponte peut chuter de manière drastique, il peut même s'arrêter complètement pendant une vague de chaleur.
Et la qualité de l'œuf lui-même ?
La qualité en prend un coup, elle aussi. C'est un point fascinant de la physiologie de la poule. La formation de la coquille d'un œuf, ça demande une quantité d'énergie et de calcium qui est colossale.
D'accord.
Et sous l'effet de la chaleur, ce mécanisme est perturbé. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec des coquilles plus fines, plus poreuses, plus fragiles.
L'œuf est de moins bonne qualité.
Moins bonne qualité et il se conserve moins bien. C'est terriblement frustrant, non, elle ? On prend des poules pour avoir de bons œufs frais et c'est le climat qui vient saper cet effort à la base.
Le tableau est assez sombre, il faut bien l'avouer. Mais la source, heureusement, ne se contente pas de lister les problèmes. Elle propose surtout des pistes d'adaptation.
Oui, heureusement.
Alors, concrètement, une canicule est annoncée pour la semaine prochaine. Je fais quoi, là, tout de suite ?
Trois choses. Simples, immédiates. Premièrement, l'eau. On double les abreuvoirs, on les met bien à l'ombre. Et, petite astuce, on peut y jeter quelques glaçons dans l'après-midi. L'eau doit rester fraîche, c'est capital.
D'accord, l'eau. Deuxièmement.
L'ombre. Une simple bâche tendue au-dessus du parcours, un vieux parasol, peu importe, ça crée une zone refuge qui peut absolument tout changer.
Et troisièmement.
L'alimentation. On ne donne plus à manger en pleine journée. On décale à très tôt le matin ou très tard le soir. Quand la fraîcheur revient et, avec elle, l'appétit.
Simple, direct, efficace. Ça, c'est pour l'urgence. Mais si on veut penser sur le plus long terme, comment on rend son petit élevage plus résilient ?
Sur le long terme, il faut changer de stratégie. Le premier levier, c'est l'habitat. Il faut penser le poulailler non plus comme une simple cabane, mais comme un petit bâtiment bioclimatique.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire une bonne isolation qui protège du froid l'hiver et surtout de la chaleur l'été. Et puis, la ventilation traversante, c'est essentiel. Créer un simple courant d'air, c'est le meilleur climatiseur qui soit.
L'orientation du poulailler doit jouer aussi, j'imagine.
C'est primordial. On évite le plein sud pour la façade principale et les ouvertures.
Mais est-ce que c'est réaliste pour un amateur ? On les trouve facilement. Et est-ce qu'on ne sacrifie pas trop la ponte ? On veut des poules résilientes, d'accord, mais on veut des œufs aussi.
C'est une excellente objection. C'est vrai, ces races sont parfois un peu moins faciles à trouver et leur rendement est inférieur à celui des souches industrielles, c'est un fait. On n'aura pas un œuf par jour et par poule toute l'année.
Voilà.
Mais on aura une production plus régulière, moins sujette à ces arrêts brutaux liés au climat. C'est un calcul différent. On échange un pic de productivité contre de la constance et de la durabilité. Et surtout, on a des animaux qui souffrent moins. C'est aussi une question de bien-être animal. Tout simplement.
Ce qui est fascinant en écoutant toutes ces solutions, c'est que la plupart semblent relever du bon sens. Il n'est pas question de technologie hors de prix ou de...
Vous mettez le doigt dessus. Les trois solutions les plus efficaces ne coûtent presque rien. L'orientation du bâtiment, les heures d'alimentation et le choix d'une race adaptée. On se rend compte que la solution n'est pas dans la high-tech, elle est dans un retour à une forme de bon sens paysan.
D'observation.
D'observation de ces animaux et de leur environnement. C'est ce que prônent des approches comme la permaculture ou l'agroforesterie, qui sont citées dans la source. Planter un arbre près du poulailler, c'est de l'agroforesterie à l'échelle du jardin, quoi.
Et ça apporte de l'ombre, de la fraîcheur.
L'ombre, la fraîcheur, des insectes, parfois des fruits. On passe d'une vision où l'on gère un poulailler à une vision où l'on cultive un micro-écosystème. Et la poule en est un élément clé.
Ce qui est fou, en lisant la source, c'est de réaliser qu'on parle de millions de poules en France chez des particuliers, mais qu'en fait, la recherche scientifique s'y intéresse très très peu.
C'est le grand paradoxe. On a une pratique de masse qui est une sorte d'angle mort de la recherche agronomique.
Et la conséquence, Viecte ?
La conséquence directe, c'est que la connaissance la plus précieuse, aujourd'hui, elle n'est pas dans les laboratoires. Elle est sur le terrain. Ce sont les témoignages, les astuces échangées sur les forums en ligne, les observations partagées entre voisins. Tout ça, ça constitue une base de données collaborative d'une richesse incroyable.
C'est la force de la communauté, en somme.
Exactement. L'article lui-même incite à ça. Il encourage les commentaires, le partage d'expériences. Pour un éleveur amateur qui se sent un peu perdu, les ressources existent, mais elles sont diffuses. Il faut aller les chercher.
Où ça, par exemple ?
Les chambres d'agriculture locales, les associations d'éleveurs de race ancienne, et bien sûr, cette intelligence collective du web. Il y a même des outils plus pointus, comme le site Climabat pour les bâtiments agricoles, dont on peut totalement s'inspirer pour son propre poulailler.
L'information est là. Mais il faut aller la chercher et l'adapter à sa situation.
C'est ça.
Si on devait résumer, le message n'est pas si pessimiste que ça, finalement. Oui, le changement climatique est une menace bien réelle pour nos poules. Ça va du coup de chaleur mortelle à la simple baisse de la ponte. Mais la partie n'est pas perdue.
Loin de là. Le message clé, c'est que l'adaptation est non seulement possible, mais elle est souvent accessible. Elle demande plus d'observation, un peu d'anticipation et peut-être un léger changement de mentalité.
C'est-à-dire ?
Accepter de produire un peu moins pour produire mieux et surtout plus longtemps.
C'est une belle conclusion. On a commencé avec un problème très concret, le bien-être de nos poules, et on arrive à une réflexion qui est bien plus large.
C'est exactement ça. Et si on prend encore un tout petit peu de hauteur, on peut se poser une dernière question. Au-delà de la simple protection de quelques poules, est-ce que l'adaptation de ces tout petits élevages ne pourrait pas servir de modèle ?
De laboratoire à petite échelle ?
Pour penser la résilience de nos systèmes alimentaires locaux, précisément, face à cet avenir climatique qui est si incertain, c'est peut-être une invitation à voir le poulailler de jardin non plus comme un simple passe-temps.
Mais comme un micro-laboratoire d'adaptation.
Voilà, peut-être l'un de nos premiers terrains d'entraînement pour le monde de demain.